du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trisac.
Alors, est-ce que le gouvernement doit lancer un appel d'urgence pour recruter de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les écoles, un peu comme on le fait dans les CHSLD? On pose la question à la députée de Joliette pour le Parti québécois et porte-parole en matière d'éducation, Véronique Yvon. Madame Yvon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, exactement?
Nous, en fait, on propose qu'enfin, il y a des actions vraiment fortes et vigoureuses et on pense qu'un des moyens d'y arriver en éducation, c'est de mettre sur pied un « je contribue » pour le milieu scolaire. Ce qu'on constate depuis la rentrée, faute, je dirais, d'une planification adéquate, c'est qu'il y a plein de gens qui devraient être au service des élèves, mais qui doivent faire plein d'autres tâches parce que personne dans son champ d'expertise réussit à combler tous les besoins. Donc, ça commence avec les concierges qui sont débordés. Donc, ça déborde sur des enseignants qui doivent faire beaucoup de désinfection. Même, on le voyait la semaine dernière, orthopédagogues qui font de la désinfection, qui font de la circulation quand les élèves arrivent le matin, s'assurer que les consignes sont suivies, tout le monde se lave les mains. Et ce qui est un peu aberrant dans tout ça, c'est qu'on est à un moment où les besoins de récupération, de rattrapage, d'accompagnement pour les élèves sont plus grands que jamais après des mois de non-fréquentation scolaire. Et malheureusement, les enseignants et les professionnels ont moins de temps que jamais parce que, comme plusieurs me le disent, on doit gérer la COVID. Donc, ils doivent plus surveiller parce que les horaires, par exemple, de récréation sont étendus pour pas que tout le monde soit dans la cour en même temps. Fait que ça prend des enseignants parce que c'est les enseignants qui surveillent. Même chose sur l'heure du midi, les heures de dîner sont étendues. Même chose, donc, on demande aux profs de faire la désinfection des bureaux, d'accompagner les élèves à la toilette tous ensemble parce qu'on peut pas y aller un par un, il faut suivre des protocoles. Donc, il y a plein de ces tâches-là qui pourraient revenir à d'autres gens, d'abord les gens qualifiés pour ça, mais qui pourraient être soutenus. Et au-delà, je dirais, des aspects qui doivent incomber clairement aux enseignants, bien, il y a aussi de mieux soutenir tout notre personnel de soutien, les éducatrices en service de garde, les personnes qui surveillent sur l'heure de dîner, les concierges. Donc, il y a vraiment une grosse corvée à faire là et on est petit peu abasourdi que ça soit toujours pas en place depuis le début du cœur.
En même temps, là, Mme Yvon, là, vous pouvez pas demander, tu sais, il y a pénurie de suppléance, il y a des problèmes avec le personnel d'entretien, personnel de soutien, là, qui ont des revendications d'ailleurs, là, je leur ai parlé la semaine passée. Mais, tu sais, moi, je connais, par exemple, là, je connais un jeune homme, là, qui a une expérience dans l'entretien, qui a offert ses services à une commission scolaire ou un centre de service, je ne sais plus trop, et on ne l'a jamais rappelé. Donc, on peut pas accuser le ministre Robert, je ne suis pas là pour prendre sa défense, mais de tout ce qui va mal dans le système d'éducation, alors que ça fait des années que ça ne va pas bien.
Ce n'est pas ça que je fais d'ailleurs. Je me mets en mode solution. Depuis le printemps qu'on propose des avenues au ministre, qu'on dit voici les voyants que nous voyons nous sur le tableau de bord, et comment on va pouvoir... Moi, je pense que la priorité, c'est de savoir comment on peut s'occuper des élèves. Moi, j'ai vraiment peur qu'après les aînés des CHSLD, ce soit les élèves, surtout les élèves en difficulté, qui fassent les frais de la COVID, qui deviennent les plus grandes victimes. Est-ce qu'on va se contenter de dire « Ah, ben, coudonc, hein, à l'impossible, nul n'est tenu. »
Mais non, c'est pas ça. Arrêtez donc, là. Vous êtes de mauvaise foi.
Mais je dis pas que c'est ça que vous
mais,
dites.
Mais c'est pas parce que t'es orthopédagogue que tu peux pas diriger les enfants sur les lignes pour rentrer en classe. Là, ça demande des efforts additionnels. Là. C'est pas, on va laisser faire les titres et on va tous contribuer pour que l'école aille mieux.
Oui, je pense que l'idée, c'est pas de s'enfarger dans les fleurs du tapis.
Non.
On peut pas sortir de notre champ d'expertise. Je pense que tout le monde en ce moment sort de son champ d'expertise. Tout le monde met la main à la pâte. Puis il y a pas de ça qui est en jeu. Moi, ce que je vous dis, c'est que ma plus grande préoccupation, c'est que il devrait y avoir plus de temps de consacrer au soutien pédagogique des enfants, la santé pédagogique des enfants. Donc, tous ceux qui ont des retards, tous ceux qui avaient déjà des difficultés puis qui sont exacerbés par les non-mois de fréquentation scolaire. Donc, tout ça, ça devrait être mis en place pour qu'on puisse les soutenir davantage, parce que là, ce qui va arriver, c'est que les écarts vont encore se creuser entre ceux qui ont de la difficulté puis ceux pour qui ça va bien, parce que ceux qui ont de la difficulté ont beaucoup plus souffert des mois de confinement que ceux qui ont de la facilité puis qui peuvent reprendre les choses rapidement.
Okay.
Mais
là,
en ce moment, la réalité terrain, c'est pas ça qu'on vit. Ouais. Les enseignants nous disent, on a moins de temps pour ça qu'on pouvait en avoir avant.
Mais c'est sûr.
Plus de surveillance.
Mais c'est sûr, on est en pleine pandémie, Madame Yvon, en même temps, il faut que les enseignants soient malléables et un peu flexibles. C'est sûr qu'il y a moins de temps, là. C'est sûr que c'est pas comme d'habitude. Moi, ma question pour vous, c'est, est-ce que vous trouvez que Jean-François Roberge pourrait s'inspirer de la façon de faire de Sonia Lebel, puis d'amener à la table des trois partis d'opposition pour trouver des solutions, comme vous l'avez fait en matière d'agression sexuelle?
Oui, complètement. Je pense que surtout quand on vit des moments plus difficiles où il faut vraiment trouver des moyens innovateurs, c'est une bonne manière de procéder comme on le fait pour les agressions sexuelles. Je pense que oui, je pense que ça devrait être fait beaucoup plus souvent. Moi, je suis pas mal une tenante de ça.
Ouais.
Et je pense qu'il faut se creuser les méninges. Mais je veux juste revenir, parce que vous dites, ouais, mais là, c'est normal. C'est vrai que c'est normal, mais c'est pas normal de pas se creuser les méninges pour dire comment on peut plus soutenir les élèves. Et en soutenant mieux les enseignants, on soutient mieux les élèves. C'est ça l'idée.
Êtes-vous en train de dire que...
de répondre aux besoins des élèves.
OK. Êtes-vous en train de dire que Jean-François Roberge ne se creuse pas les méninges pour trouver des solutions?
Ben, je trouve qu'il devrait être beaucoup plus innovateur, proactif, pour trouver des moyens. Comment ça se fait? Moi, je comprends que des enseignants à la retraite qui sont brûlés, puis qui disent « Hey, wow, est-ce que je veux retourner? » Souvent, en plus, ils sont dans la soixantaine, ils peuvent avoir plus de risques. Est-ce que je veux aller prendre la charge d'une classe? Peut-être pas. Mais si on leur dit « On vous prendrait en soutien », parce qu'on en a 3-4 dans la classe là qui ont vraiment de la difficulté, qui ont vraiment de la misère à être à niveau là parce que leurs retards sont trop grands, puis l'enseignante n'arrive pas. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire « Venez-vous-en », puis non, on vous pénalisera pas financièrement, mm-hmm. puis on peut mettre en place des incitatifs que ça va être attrayant, puis vous allez vous occuper d'une petite cohorte, là. On vous donnera pas une classe au complet, on comprend ça. Pourquoi on peut pas faire la même chose avec des étudiants? Il y a plein d'étudiants en enseignement, deuxième année, troisième année, au-delà des stages, qui ont des emplois pour gagner leur vie dans une boutique, dans un dépanneur. Pourquoi on peut pas dire « Vous allez venir travailler 15-20 heures par semaine dans
l'école? » Ils reçoivent de la PCU. Ils reçoivent la PCU. Pourquoi ils...
Il y en a qui travaillent encore.
Ouais.
Ça, c'est tout un autre enjeu. Mais pourquoi on n'est pas capable? Nous, ça fait des mois qu'on, nous puis les autres oppositions, qu'on en fait des propositions au ministre, créer des équipes choc pour qui puissent être présentes pour soutenir les élèves.
Mais en même temps, Yvon, là, honnêtement, là, il faudrait que vous parliez aux syndicats aussi, là. Parce que les syndicats...
Je parle aux syndicats.
Mais là, ils veulent établir des normes, là, les syndicats. Là. Tu peux pas être suppléante là si t'as pas. Tu sais, il faudrait. On peut pas laisser n'importe quelle crapule non plus rentrer dans les écoles. Faut qu'on fasse attention aussi à ça. Mais en même temps, il y a des diplômés qui peuvent pas faire de la suppléance alors qu'ils pourraient le faire puis alléger le fardeau de tout le monde.
En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui met de l'eau dans son vin, là, puis vous parlez aux syndicats, je suis pas là pour parler en leur nom, mais en ce moment, vous savez, le ministre nous a dit la semaine dernière qu'il y a quelques centaines d'enseignants non qualifiés, là. Ils en ont pas de qualification, sont pas en attente d'eux, sont pas en train. Il y en a en ce moment tellement la pénurie est grave. Puis oui, il y a une tolérance par rapport à ça. C'est pas la situation idéale. Tout le monde va en convenir. Mais les syndicats ont pas fait 8 communiqués sur ça parce que tout le monde est conscient de l'urgence en ce moment de la situation.
Mais
même chose. Vous allez dire à un enseignant, il va avoir une étudiante de deuxième ou troisième année qui va venir soutenir pour faire du 1-1 ou en petit groupe avec des élèves qui ont de la difficulté dans ta classe une quinzaine d'heures par semaine de manière temporaire. Vous pensez qu'ils ne sont pas contents?
Ben oui.
Moi, je peux vous dire, pour avoir des cris du cœur des enseignantes, ils vont être vraiment contentes de ça. Parce qu'en ce moment, il y en a plein qui nous disent ce qu'on fait, c'est gérer la COVID. On n'a pas le choix, mais c'est ça qu'on fait. Alors que ce qu'on aimerait faire, c'est s'assurer que nos élèves ne sont pas trop en retard, qu'on est capable de faire du rattrapage.
Ouais.
Malheureusement, ben, qui paie le prix de ça, c'est les élèves. Puis je pense pas que c'est ça qui devrait être le cas. Fait que je me dis, si on était capable de faire ça en santé, là, de se retourner puis de dire, on amène du monde, puis on les forme, comment ça se fait qu'en éducation, on sent pas cette urgence-là, ces cris du cœur-là dans les conférences de presse quotidiennes?
Mais là, ça tombe mal aussi. Mais avec la COVID, là, ça tombe mal. Là, on voit, on l'a vu, tu sais, il y a une pénurie de même de suppléance, puis on faisait venir des surveillantes de services de garde pour faire de la suppléance en classe. Là, tu dis, hey, on est mal barré, puis pas depuis hier, là.
Ça, c'est vrai. Fait qu'il y a comme une tempête parfaite là, avec la COVID qui vient s'ajouter à ça. Fait que comment ça se fait qu'on n'est pas en train de se dire, il y en a des gens qui ont déjà fait de la surveillance, il y en a des gens qui ont une tête sur les épaules, qui ont une facilité, qui ont déjà eu un contact dans le milieu scolaire, des brigadiers à la retraite, des gens qui ont... Comment ça se fait qu'on fait pas un appel à tous puis qu'on dit, hey, on va en faire une banque, puis oui, on va en donner de la flexibilité, puis on va en donner du soutien aux enseignants, on va en donner du soutien à nos concierges, on va en donner du soutien à nos éducatrices en service de garde. C'est pas simple en ce moment ce qu'ils vivent, mais au-delà de tout ce que eux vivent, c'est les enfants qui vivent ça comme répercussion en ce moment. Puis moi, j'ai pas envie qu'on ait des cohortes de redoublement, de décrocheurs, parce qu'on n'aura pas mis les bouchées doubles au moment où c'était crucial.
Est-ce que vous lancez officiellement dans les médias un appel à Jean-François Roberge de vous consulter, les trois partis d'opposition, plus vous consulter, de collaborer, de travailler ensemble à mettre l'épaule à la roue?
Ben c'est sûr que on aimerait beaucoup pouvoir contribuer. Mes collègues des deux autres oppositions font des propositions aussi. On est en mode solution. Vraiment, je pense. Hein, les gens des fois disent l'opposition est juste là pour critiquer.
Ouais.
C'est normal en démocratie de critiquer parfois, mais on propose énormément. Fait que je lui demande oui de s'ouvrir à nos propositions.
Mais est-ce qu'il est boqué?
Quatre têtes des fois peuvent valoir mieux qu'une seule.
Mais est-ce que Monsieur Robert est-ce que M. Roberge est boqué, hein, Yvon?
Ben, moi, j'ai pas envie de qualifier
Envoyez donc.
Les gens d'épithètes.
Ben, comment vous voulez le qualifier d'abord, là? S'il n'est pas boqué, comment.
Ben, je pense que M. Roberge, malheureusement, il improvise beaucoup. C'est un peu un continuum, je dirais. On cherche la planification. On cherche la vision. Puis c'est ça que ça prend avant pour poser les bonnes actions. Fait que moi, je regarde les maternelles 4 ans. On a demandé pendant un an et demi la planification. Où était le plan? Comment on n'allait pas cannibaliser puis se piler ses pieds avec les CPE puis tout ça? On l'avait pas, le plan. Donc, c'était comme ça se développait, où il y avait des places puis tout ça. Puis là, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. On l'a vu, là. C'est fou, tous les incidents d'improvisation. Jour de la rentrée, nouvelle directive pour le sport scolaire. C'était pas venu. Toutes les écoles s'étaient organisées autrement. On n'avait pas eu cette directive-là. Bang, le jour, tellement qu'il y a des écoles qui ont dû retarder la rentrée. Ensuite, quand est-ce qu'on a commencé une campagne de sensibilisation puis de valorisation de la profession enseignante? Encore une fois, la semaine de la rentrée scolaire. Il me semble qu'on aurait pu commencer ça en avril, en mai, en juin. On le savait que la pénurie frapperait, puis on le savait qu'on aurait des besoins encore plus grands qu'avant. Ben non, toujours pas. Donc, c'est toujours comme ça. C'est comme si c'est un pas en avant, deux pas en arrière, énormément d'improvisation. Fait que nous, on y demande de se mettre en mode planification, de se mettre en mode action, puis surtout de se dire où ils sont les besoins, puis quelles réponses on peut amener.
OK.
Alors
si on a raté. Si
en santé, on a réussi.
Si on a raté la rentrée, est-ce qu'on peut prévoir janvier 2021 au moins? T'sais, de voir venir la prochaine rentrée après les fêtes. Hey, dis donc, avant qu'on se quitte, vous savez bien que je vais vous poser la question, hein?
Non, laquelle donc?
Véronique Yvon, vous savez bien que je vais vous poser la course à la chefferie, le regrettez-vous?
Non, je le regrette pas.
Pantoute?
J'ai raison. Non, je suis vraiment, vraiment très, très sereine et bien avec ma décision. C'était la seule qui s'imposait dans ma réalité actuelle. Donc, c'est toujours la bonne. Je suis très sereine par rapport à ça.
Je demeure
impliquée et engagée, mais juste pas comme candidate ou chef potentiel.
Mais vous avez 4 bonhommes blancs là, qui veulent être chef du Parti québécois. Ça manque de diversité, vous trouvez pas?
Ben, c'est sûr qu'il y a toujours un objectif d'avoir plus de diversité, plus de représentation des femmes notamment. Ça, c'est des choses qui se travaillent de longue date à tous les échelons, dans le parti, à l'extérieur. Mais je pense qu'on a quand même une bonne représentation féminine dans le caucus. Notre DG, Carole Poirier, est une femme. Notre président est quelqu'un qui est africain d'origine, qui est ici pas depuis des lustres. Donc, le Parti québécois vraiment se renouvelle, autant en termes de parité homme-femme qu'en termes de diversité.
Bon, OK, c'est correct. Et, faites-moi pas l'info pub PQ, là, s'il vous plaît, là, tu sais, mais
ça manque. La question,
ben oui, mais là, ça manque de femmes, là, dites-moi.
La réponse qu'il faut.
Non, mais dites-moi que ça manque de femmes et de diversité.
Il faut toujours plus de femmes en politique, je suis la première à le dire.
Ouais.
Mais moi je crois beaucoup dans aussi la collaboration, puis je pense que avec ce qu'on a comme équipe en ce moment, le poids des femmes, il est vraiment présent.
Bon.
Puis oui, dans un autre univers, ça aurait pu être différent, mais pas cette fois-ci.
Pas cette fois-ci. Fait que là, l'appel est lancé à Jean-François Roberge. Là, vous êtes prête à vous asseoir avec lui. Vous, l'opposition, entre vous au PQ, mais probablement aussi les autres oppositions pour mettre l'épaule à l'eau.
Oui, on lui a déjà parlé en privé, hein, au printemps. On a eu une ou deux conférences téléphoniques, puis on lui en faisait plein de propositions. Fait que nous, okay, on est prêts à reprendre. Ça peut être chaque semaine, s'il veut.
Est-ce qu'il prenait des notes ou il regardait en l'air?
Ben, c'était au téléphone, fait que je pourrais pas vous dire.
C'était
okay. Par Zoom, fait que je le scrutais pas à la loupe.
Parfait.
Mais il y avait une attitude d'ouverture, mais malheureusement, nos propositions n'ont pas été retenues à ce jour. Mais je garde espoir, c'est pour ça que j'en fais encore.
C'est bon. C'est René Kivon, porte-parole en matière d'éducation pour le Parti québécois. Merci. À la prochaine.
Merci à vous.
Salut.
Au